d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdelrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Nous sommes jeudi 22 mars 2018 au sommaire. Le Premier ministre malien en visite dans le nord du pays alors qu'une attaque a fait 5 blessés parmi les soldats français à Kidal.
Les hélicoptères des Nations Unies qui devraient venir chercher la délégation du Premier ministre Tessaline n'ont pas pu décoller de Kidal à cause de la visibilité.
Les autorités nigérianes annoncent la fermeture de tous les pensionnats dans le nord-est après la libération d'une centaine de filles enlevées par Boko Haram il y a un mois. Nouvelle manifestation de l'opposition guinéenne à Conakry pour exiger ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections communales du 4 février. Le président américain Donald Trump prend des mesures punitives contre les importations chinoises. Les produits visés pourraient atteindre 60 milliards de dollars. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Le Premier ministre malien, Soumaïlou Boubey-Maïga, a entamé ce jeudi une visite dans le nord et le centre du pays. Une visite qui intervient au moment où les forces françaises Barkhane et la MINUSMA ont été ciblées par une attaque à Kidal sous contrôle de l'ex-rébellion. Kassim Traoré.
Il était 7 heures du matin quand il y a eu soudainement un vent de poussière qui s'est dégagé suite à des tirs de roquettes. Plusieurs habitants ont pris la fuite sans chercher à savoir. Cette attaque matinale était des tirs de roquettes et des obus de mortier lancés sur les camps de l'AMINUSMA. Les camps de l'AMINUSMA de Kidal, ciblés des tirs de roquettes, devraient recevoir le Premier ministre malien et sa délégation. Il y a eu des dégâts matériels à registrer, des chambres parties en fumée chez le contingent cambodgien et des blessés côté Barkhane. Dans la foulée, Barkhane a arrêté 4 présumés terroristes. Suite à cette attaque, le Premier ministre malien en visite dans les régions nord du Mali, qui d'ailleurs se trouvait à Tessalit, a reporté l'étape de Kidal du jeudi au vendredi 23 mars. À Tessalit, il a rencontré la population. Juste après, Soumaïlou Boubey-Maïga et sa délégation ont déjeuné avec les FAMA. Le Premier ministre veut s'imprégner de plus près des préoccupations en vue d'y apporter des solutions concrètes. Il y aura également des rencontres avec les représentants de l'État, les élus locaux, les notabilités traditionnelles ainsi que les forces armées et de sécurité déployées dans ces localités pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de lutter contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un ancien conseiller municipal a été enlevé à Lassa, localité du Nord, frontalier au Mali. Selon le ministère de la Sécurité, il a été conduit vers une destination inconnue autour de 18h hier par des individus armés circulant à bord de 5 motos. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont entrepris le ratissage de la zone, a précisé le ministère de la Sécurité. L'opposition guinéenne de nouveau dans la rue ce jeudi pour réclamer ce qu'elle considère comme les vrais résultats des élections municipales du 4 février. Elle continue de dénoncer des fraudes en faveur du RPG d'Alpha Condé, donné vainqueur du scrutin. Le point avec Zakaria Camara depuis Conakry.
La rencontre entre Thibou Camara, ministre d'État conseiller personnel du président Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition n'aura pas empêché la marche voulue par l'opposition guinéenne. Quelques minutes après l'entretien, loin des caméras, celui d'Alain et ses militants prennent la direction de l'autoroute. Mais le cortège se heurte à un dispositif sécuritaire présent sur les lieux depuis le matin. Plus de 20 camions et pick-up se mettent en branle vers les manifestants. Les deux avancent les uns envers les autres. Ensuite commence gaz lacrymogène contre cailloux. Les manifestants se dispersent, poursuivis par les policiers. Après les échauffourées de la tannerie, le chef de file de l'opposition tiendra son meeting quelques temps après à Bambeto, comme cela lui avait été accordé par les autorités locales. La marche est interdite sur l'autoroute par le maire de Matoto. Nous sommes ici pour donner force à la loi, avait déclaré au micro de la VOA avant les affrontements le directeur des unités d'intervention de la police. Plusieurs jeunes ont été interpellés, un agent blessé au visage selon une source policière. L'opposition guinéenne qui dit détenir toutes les preuves de fraude entend contraindre la Commission électorale nationale indépendante afin de procéder à la comparaison des procès-verbaux. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Après la libération des filles de Dapchi, les autorités nigérianes ont décidé de fermer tous les pensionnats dans l'état du Borno, dans le nord-est du pays. Cette région est l'une des plus touchées par le conflit avec le groupe Boko Haram. Le point avec Blanche Chanou.
Après les enlèvements de plus de 200 écolières à Chibok en avril 2014 et de 110 jeunes filles enlevées de Dapchi le 19 février, les autorités de l'état du Borno ont annoncé la fermeture des pensionnats pour raisons de sécurité. Tous les établissements d'enseignement secondaire en pensionnat de l'état du Borno, à l'exception de ceux de Maïdougouri et de Biou, fermeront avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le gouvernement de l'état du Borno dans un communiqué. Conscient des conséquences de cette décision sur le niveau scolaire déjà faible, le ministre de l'Information, Mohamed Boulama, a déclaré que ces mesures sont urgentes pour la sécurité des enfants de la région. Cette décision radicale intervient alors que les djihadistes présumés ont relâché hier une centaine d'écolières à Dapchi, dans l'état de Yobe qui fait frontière avec le Cameroun et le lac Tchad.
En Guinée équatoriale, l'accès au réseau social WhatsApp a été rétabli ce jeudi. Mais des sites Internet et d'autres réseaux sociaux comme Facebook restent inaccessibles. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux avait été bloqué le 11 novembre, veille du scrutin pour les élections législatives. Internet avait été rétabli en même temps que le résultat du scrutin le 19 novembre, où le parti au pouvoir a remporté presque 100% des voix. Les Comores ont durci le ton dans le bras de fer qui les oppose à Paris sur l'immigration clandestine. Le pays a refusé d'accueillir près d'une centaine de Comoriens expulsés de l'île française de Mayotte. Les Comores qualifient ces expulsions d'illégales. La France a demandé aux Comores de revenir sur leur décision de ne plus accepter les migrants clandestins. En Zambie, l'ancien ministre Tshishimba Kamwili, un des critiques les plus virulents du président Edgar Lungu, a été interpellé par la police dans le cadre d'une enquête sur ses affaires financières. La justice a refusé sa demande de liberté sous caution et il doit être déféré devant un tribunal vendredi, a précisé son avocat. Ex-ministre de la Communication et des Affaires étrangères, Kamwili a été limogé en novembre 2016 par le président Lungu sur la base d'accusations de malversation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump vient d'annoncer une hausse des taxes sur les importations en provenance de la Chine. Il cible 60 milliards de dollars d'importations venant de la Chine qu'il accuse de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle. Avant l'annonce du président Trump, la Chine a fait savoir qu'elle n'allait pas rester les bras croisés. Ici aux États-Unis, toujours, la police d'Austin au Texas a annoncé avoir retrouvé une apparente vidéo de confession de l'auteur présumé de la série d'attentats au colis piégé et qui s'est donné la mort hier. Le point avec Bagasikoura.
Le téléphone de Marc Anthony Condit, âgé de 23 ans, contenait un enregistrement vidéo de 24 minutes où il parle de ce qu'il a fait. Le chef de la police, Brian Manley, a qualifié cet enregistrement de confession. Il a ajouté que dans cette vidéo, le suspect décrit les 6 bombes qu'il a fabriquées avec un niveau de détail tel qu'il spécifie clairement les différences entre les 6 bombes. Mais ses motivations ne sont toujours pas clairement établies. Depuis la première explosion, le 2 mars, plusieurs centaines d'agents de la police locale et fédérale étaient sur la trace du poseur de bombes en Syrie. Le suspect a été identifié notamment grâce à des images tournées dimanche dans une succursale de la société de livraison FedEx à Austin. Le jeune homme s'est fait exploser en tentant d'échapper à un groupe d'intervention de la police qu'il avait retrouvé hier matin près d'un hôtel. Le policier cherche à établir s'il a bénéficié de complicité. Du matériel servant à fabriquer des explosifs a été retrouvé à son domicile.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, demande au jeune prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman de relancer des efforts urgents pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre civile au Yémen. L'Arabie saoudite fait partie de la solution, a ajouté Mattis en recevant jeudi au Pentagone le nouvel homme fort de l'Arabie saoudite. En Syrie, des centaines de combattants rebelles et de civils ont commencé à quitter la route orientale pour la première fois depuis le lancement d'une offensive du régime syrien. Plus d'un millier de personnes, dont 237 combattants, ont pris place à bord d'autobus blancs et quitté En fin de matinée, le secteur rebelle de Harasta, à l'est de la capitale, selon la télévision d'État syrienne. Les troupes gouvernementales sont déterminées à reconquérir l'ultime bastion des insurgés aux portes de Damas. Les autorités israéliennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur les activités de Facebook à la suite d'une polémique autour de l'utilisation de données personnelles de millions de ses utilisateurs par une firme britannique. L'agence israélienne de protection de la vie privée a indiqué dans un communiqué avoir informé Facebook qu'elle avait ouvert une enquête sur ses activités à la suite de ses informations sur les transferts de données personnelles de Facebook vers Cambridge Analytica. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Claire Morin-Jubourg qui nous présente la Minute Éco.
Les autorités béninoises ont annoncé avoir différé leur signature de l'accord créant la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est à l'issue d'un conseil des ministres aujourd'hui que le gouvernement du Bénin a annoncé avoir besoin d'engager des concertations nationales, notamment avec le Parlement et les acteurs sociaux et économiques. Cet accord avait été validé hier par 44 pays africains lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, la Sénégalaise des eaux a présenté ses résultats au grand public. Alors que l'alimentation en eau reste un important défi pour de nombreux pays africains, le taux d'accès aux services de la SDE est passé de 80% en 1996 à 98% en 2017. En comparaison, la moyenne est de 68% en Afrique subsaharienne. La SDE a doublé son nombre de clients et sa production d'eau sur la même période. Situation critique au port de Douala au Cameroun. Le niveau de la corruption et des tracasseries administratives est tel que certains transporteurs du Tchad et de la Centrafrique, qui ne bénéficient pas d'accès à la mer, envisagent de trouver d'autres solutions en Afrique de l'Ouest. Les durées de passage des marchandises sont très longues, en moyenne 16 jours, estime la Banque mondiale. Il faut désormais 20 à 22 cachets différents pour dédouaner une simple voiture et le coût de la procédure a augmenté de 50% en un an.
Et c'est l'heure de retrouver Yacouba Ouédraogo pour la page des sports. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Le torchon brûle entre Bifouma et le ministre congolais des sports.
Oui Abdourahmane, Thierry Bifouma a quitté le stade du Congo en France pour dénoncer les conditions d'organisation. Le match prévu contre la Guinée-Bissau est annulé à la dernière minute. Dans une interview accordée à Adiak Congo, l'attaquant de Sivasspor en Turquie tire à boulet rouge sur le ministère des sports. Je n'ai pas voulu cautionner cette parodie de stage. Ce regroupement d'amis a été organisé dans des conditions indignes du football professionnel. Pour moi, c'est un manque de respect total vis-à-vis des joueurs, a laissé entendre l'attaquant des Diables Rouges avant de poursuivre. Je cite, j'ai cru comprendre qu'on a refusé de payer les frais d'organisation. Je sais que le pays traverse une crise financière, mais on parle de 10 000 euros. Si on ne peut pas payer cette somme, une somme comme celle-là, pour préparer les éliminatoires, autant le dire et déclarer forfait.
Yaya Touré, lui, ne rejoindra pas les éléphants en regroupement pour des matchs amicaux.
Tout à fait, Abdourahmane, on l'annonçait introuvable depuis lundi, le début du stage des éléphants en France. Yaya Touré vient de donner de ses nouvelles et annonce qu'il ne sera pas présent pour les deux matchs amicaux prévus par la Côte d'Ivoire durant cette trêve internationale. L'international ivoirien a évoqué des raisons familiales sur son compte officiel Twitter. La Côte d'Ivoire affronte le Togo le 24 mars, puis le 27 mars, la Moldavie.
Et puis Ibrahimovic qui arrive ici aux États-Unis.
C'est une fin hollywoodienne pour un buteur hors pair, Zlatan Ibrahimovic, simple figurant à Manchester United. Depuis une blessure à un genou, va rejoindre à 36 dans le Los Angeles Galaxy. D'après le magazine Sport Illustrated, l'attaquant suédois va s'engager avec le Galaxy jusqu'au terme de la saison 2019. Son salaire annuel s'établira à 1,5 million de dollars, le maximum autorisé dans le championnat américain de football. Il est margé à 206 000 euros par semaine à Man U. Le colosse pourrait faire ses débuts à l'occasion du derby le 31 mars entre le Galaxy et Los Angeles FC.
Merci beaucoup Yacouba. Bye-bye.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga a entamé ce jeudi une visite dans le nord et le centre du pays. Il est arrivé avec 8 ministres à Tessalit, près de la frontière algérienne. M. Maïga a été attendu à Kidal, où une attaque ce matin contre le camp de la MINUSMA et de la force française Barkhane a fait 5 blessés légers parmi les militaires français. Idriss Fall a joint à Tessalit Sidi Mohamed Ishras, gouverneur de la région de Kidal.
Le Premier ministre est venu ramener à Kidal un message de paix, un message de réconciliation. Et il est venu aussi pour relancer les activités économiques dans la région et aussi les activités relatives aux ressources de l'administration et des services de base comme l'eau, l'électricité, l'éducation, etc.
Il était prévu qu'il arrive aujourd'hui même à Kidal, mais apparemment le voyage sur Kidal est reporté jusqu'à demain, vendredi.
Oui, depuis ce matin, à 3h du matin, il y a un grand vent de sable sur Kidal qui s'allume. Les hélicoptères des Nations Unies qui devraient venir chercher la délégation du Premier ministre à Tessalit n'ont pas pu décoller de Kidal à cause de la visibilité. Et l'avion même du représentant du secrétaire général des Nations Unies n'a pas pu atterrir ce matin à Tessalit pour la même raison. Et au moment où je vous parle, la visibilité à Tessalit est extrêmement mauvaise. Il y a un très grand vent de sable. Donc l'option qui a été retenue, c'est que le Premier ministre passe ici et qu'il rejoint Kidal demain matin. Le programme qui a été élaboré dit que le Premier ministre qui traite sa liste est venu demain matin à destination de Kidal.
Mais avant son arrivée, il y a eu une attaque aujourd'hui même à Kidal, alors que la CMA avait plus ou moins déconseillé son arrivée à Kidal.
Vous savez, ça c'est des situations cycliques. De temps en temps, on reçoit quelques obis, mais ça n'empêche pas le Premier ministre de se rendre à Kidal, ça n'empêche pas l'arrivée des délégations, ça n'empêche pas aussi à la population de Kidal de vivre et de travailler normalement. En fait, avec ça, on a fini par s'habituer, ça fait partie de notre paysage quotidien maintenant.
Mais vous-même, en tant que gouverneur, vous n'habitez pas à Kidal, vous faites des va-et-vient.
Ah, non. Moi, je suis là depuis le 19 septembre 2017. Je peux bouger de Kidal. Donc, moi, j'habite à Kidal, je vis à Kidal, je travaille à Kidal.
Et donc, le retour de l'administration, c'est pour bientôt, alors?
Vous savez que l'administration est lourde. Elle revient petit à petit. Il y a plusieurs choses qui sont revenues sur Kidal. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait nous sommes pas dans la région. Ça fait prendre du temps qu'on continue la lourdeur de l'administration que tout le monde connaît. Ça, ce n'est qu'une question de procédure. Et n'empêche l'administration de revenir à Kidal.
C'était Sidi Mohamed Ishras, gouverneur de la région de Kidal.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après 3 missions sur le terrain entre 2014 et 2017, Amnesty International a publié aujourd'hui un rapport sur la répression des militants anti-esclavagistes et anti-discrimination en Mauritanie. Amnesty International dénonce notamment les dangers qui pèsent sur les défenseurs des droits de l'homme. Pour analyse, Kia Badou a joint à Dakar François Patuel, chercheur à Amnesty International.
La Mauritanie continue d'être confrontée au problème de l'esclavage et de la discrimination raciale, alors que les autorités sont dans le déni. Elles répriment les défenseurs des droits humains qui traitent de ces questions et qui dénoncent la persistance de l'esclavage et de la discrimination en Mauritanie. Cette machine répressive, elle passe par des arrestations arbitraires et des cas de torture. Nous avons documenté plus de 168 cas d'arrestations arbitraires et 17 cas de torture de militants anti-esclavagistes et anti-discrimination, mais aussi par l'ingérence dans les activités des associations et dans le sabotage des activités d'associations en Mauritanie.
Vous parlez de déni. Les autorités pensent qu'il n'existe pas d'esclavage. Qu'est-ce que vous voulez dire par déni?
Oui, la Mauritanie est régulièrement pointée du doigt par les Nations Unies, par la Commission africaine des droits de l'homme. Il y a des organisations qui estiment qu'il y a 43 000 personnes qui vivent encore en situation d'esclavage en Mauritanie. Des organisations aussi qui pointent du doigt la Mauritanie pour la discrimination à l'encontre des populations afro-mauritaniennes, lorsqu'elles essayent de s'enregistrer à l'état civil. Le Comité des droits de l'enfant de l'Union africaine y a condamné la Mauritanie pour ses pratiques esclavagistes, notamment dans le cas de 2 enfants qui ont été maintenus pendant plus de 11 ans dans une situation d'esclavage en Mauritanie. À chaque fois, les autorités mauritaniennes refusent de reconnaître l'existence de ces pratiques. Elles le font également dans des interviews télévisées où on peut entendre le président de la République dire que l'esclavage en Mauritanie n'existe plus, que ceux qui dénoncent l'esclavage en Mauritanie encore aujourd'hui sont des marchandisiers, des gens qui instrumentalisent l'esclavage à des fins politiques.
En Mauritanie, qui est réduit en esclavage? Est-ce que ce sont des Mauritaniens de couleur noire ou ce sont des étrangers de passage en Mauritanie?
Le phénomène de l'esclavage en Mauritanie est extrêmement complexe et il touche toutes les communautés ethniques en Mauritanie. Il y a un esclavage, par exemple, dans les communautés maures, notamment avec la mise sous esclavage ou des pratiques esclavagistes à l'encontre des populations arabes. Mais il y a également des pratiques esclavagistes dans les communautés afro-mauritaniennes. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'à partir du moment où les gens se lèvent pour dénoncer cet esclavage et pour pointer du doigt les autorités pour leur responsabilité dans la persistance de ces pratiques, eh bien, ils font l'objet de répression. On pense également au blogueur Moraitir, qui a été condamné à mort pour apostasie en 2014, pour avoir uniquement publié un message sur les réseaux sociaux dénonçant l'instrumentalisation de la religion pour légitimer des pratiques discriminatoires et esclavagistes en Mauritanie. Il a été condamné à mort pour apostasie. Même si sa peine de mort a été commuée, il est encore en détention actuellement.
C'était François Patuel, chercheur à Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les autorités de la République démocratique du Congo entendent mettre en place un système de vote électronique pour les élections du 23 décembre. Le vote de 2011 a été marqué par beaucoup de désordres qui avaient conduit à une impasse politique de 2 ans. Reportage d'Anita Powell, rendu par Arjuma Compaoré.
Le nouveau système électronique congolais vise à faciliter le vote dans une nation aussi grande que toute l'Europe occidentale, mais avec très peu d'infrastructures, un faible niveau d'alphabétisation et plus de candidats aux élections que dans tout autre pays africain. Le vote était prévu d'abord en 2016, mais n'a pas eu lieu. Le président Joseph Kabila est resté au pouvoir à la fin de son mandat. Après les dernières élections chaotiques d'il y a 7 ans, la commission électorale s'est rendue compte que la taille du pays posait de nombreux défis. Jean-Pierre Kalamba, porte-parole de la commission électorale nationale indépendante.
Ici à Kinshasa, quand vous venez de l'aéroport, c'est la circonscription de Tchango, qui avait 1575 candidats. Ça fait que les bulletins de vote qui comporte les noms du candidat, les symboles de son parti, sa photo, les logos de son parti, vous fait une brochure de 53 pages format A3. Ces bulletins-là, ils pèsent plus ou moins 300 grammes.
Les responsables électoraux espèrent que les machines fabriquées en Corée permettront aux gens de voter plus vite. Mais l'opposant Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise, a des doutes.
Nous avons eu des explications sur la machine à voter. Les explications de la machine à voter, nous devons être clairs, ça ne nous a pas convaincus. Parce que les tests qui avaient été faits, ces tests ont démontré qu'il faut au minimum 2 minutes 15 secondes par personne à viser pour voter. Ça signifie qu'il faudra au moins 3 jours pour que tout le monde puisse élire les gens à viser.
Félix Tshisekedi, fils du défunt leader historique Étienne Tshisekedi, est aujourd'hui à la tête de l'UDPS. Le principal parti d'opposition ne mâche pas ses mots.
La machine à voter qui pour nous est une machine à tricher est simplement destinée à faire gagner le candidat qui sera celui du camp Kabila et aux législatives à se fabriquer une fausse majorité comme ils l'ont fait en 2011.
La commission électorale espère que tout sera en ordre lors du scrutin du 23 décembre, mais les tests précédents ont souffert de dysfonctionnements. La lenteur de Kabila dans l'organisation des élections a déclenché de récentes manifestations et une répression brutale qui a entraîné la mort d'au moins 15 personnes. C'est pourquoi, selon les responsables électoraux, le vote doit avoir lieu afin que la nation se prononce et que le cycle d'incertitude et de violence prenne fin en RDC.
C'est Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. Ça c'est trop fort. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Maurissin qui l'a mise en onde. À la console, il y avait Souleymane Terawale, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Face aux attaques néfastes et continues émanant de la Russie, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a annoncé des sanctions additionnelles contre 19 individus et entités russes pour une série d'activités déstabilisatrices, y compris l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et une série de cyberattaques destructives. Dans une déclaration écrite, le département du Trésor a relevé que l'une de ces actions, l'attaque NotPetya, attribuée par les États-Unis et le Royaume-Uni à l'armée russe, était la plus destructive et la plus coûteuse de l'histoire. Elle a causé des milliards de dollars de dommages à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Selon le département du Trésor, depuis au moins mars 2016, les cyberacteurs gouvernementaux russes ont également pris pour cible des entités gouvernementales américaines et de nombreux secteurs, y compris des installations énergétiques, nucléaires, commerciales et des systèmes d'adduction d'eau, les secteurs aéronautiques et manufacturiers critiques. Les sanctions imposées par le Trésor américain gèlent les biens dont disposaient les personnes et entités visées et qui seraient sous la juridiction des États-Unis. Et par ailleurs, elles interdisent à tout ressortissant américain de conduire des affaires avec eux. Le département du Trésor a relevé qu'en plus des cyberactivités néfastes de la Russie, les États-Unis continuent de faire pression sur ce pays pour ses efforts en vue de déstabiliser l'Ukraine, occuper la Crimée, s'ingérer dans les élections, de même que sa corruption endémique et ses violations des droits humains. Le département du Trésor a ajouté que la récente utilisation de gaz énervant dans une tentative d'assassiner deux citoyens britanniques illustre encore plus le comportement cavalier et irresponsable du gouvernement russe. Sous le président Trump, les États-Unis ont imposé des sanctions à plus de 100 individus et entités en rapport avec les dossiers ukrainiens et russes. Et ces sanctions, a fait savoir le département du Trésor, s'ajoutent aux efforts du département contre les activités déstabilisatrices et menant de la Russie, y compris les sanctions contre des Russes en rapport avec la Corée du Nord, le programme mondial Magnitsky et la loi Sergueï Magnitsky. À l'annonce le 15 mars des nouvelles sanctions contre les individus et entités russes, la question a été posée à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, de savoir si la Russie était une amie ou une ennemie des États-Unis. Ils devront décider s'ils veulent être des bons ou des mauvais acteurs, a-t-elle répondu. Je pense que vous pouvez voir, à travers les actions que nous avons initiées jusqu'ici, que nous attendons afficher notre fermeté vis-à-vis de la Russie, jusqu'à ce qu'elle change d'attitude.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.